Mais plongeons maintenant dans l'univers brut et poétique d'un quartier ouvrier de Trois-Rivières. Du 27 janvier au 14 février, le Centre du théâtre d'aujourd'hui présente à la salle Jean-Claude Germain « Kiki et la colère », un conte décrit comme kitsch et tragique sur la rage héritée. Alors, j'ai des invités qui vont peut-être réagir à ce que je viens de dire. Pour en parler, je reçois donc l'auteur, cinéaste et poète Alexandre Dosti.
Salut!
Bienvenue à l'émission. Bienvenue aussi à Canalem à Francis Lahaye, qui est un des interprètes. C'est le fun de vous avoir ici.
Merci.
Bon, ben, je vais commencer par Alexandre. C'est ta première pièce. On va se tutoyer, ça dérange.
Allez!
OK. Alors, c'est ta première pièce. On parle d'un cockatule en fuite qui s'appelle Kiki. Comment cet incident-là devient l'élément déclencheur de la pièce?
Écoute, moi j'ai été témoin, j'habite à Trois-Rivières depuis super longtemps. J'étais originaire de la Beauce, mais Trois-Rivières c'est devenu ma nouvelle maison. Puis j'ai été témoin un jour d'un homme qui pourchassait dans un arbre un perroquet en fuite.
Ah oui?
Et en observant la scène, j'ai compris rapidement que c'était son oiseau. Puis qu'il y avait un lien avec cet oiseau-là, c'est-à-dire qu'il était très troublé par l'idée de perdre cet ami-là. Puis j'ai vu l'homme grimper dans l'arbre et à chaque fois qu'il montait d'une branche à l'autre, l'oiseau montait plus haut. Et la tragédie vraiment se dessinait sous mes yeux, puis jusqu'à ce que l'oiseau s'envole, puis que l'homme perde cet oiseau. Et il le pourchassait avec tellement de colère, de véhémence, comment il parlait. Il faisait pratiquement des menaces de mort à cet oiseau-là. Et pourtant, je voyais bien qu'il voulait pas que cet oiseau-là s'enfuit. Il voulait pas perdre son ami, tu sais. Ouais. Puis ça m'a mis un peu sur la piste de la colère et aussi de comment des limites de la colère et d'avoir une seule, des fois, émotion pour exprimer ce qu'on ressent.
Alors, ce que j'ai lu, c'est qu'on dit que tu manies une langue tranchante où la réalité québécoise est très présente. Comment ça se traduit dans la pièce?
Bien, je pense beaucoup d'images. C'est un langage qui est très imagé. C'est un langage qui est très imaginé aussi. Donc, la colère, elle passe pas juste dans l'intonation, par exemple, des acteurs, mais aussi par les mots qui sont employés. Puis comment les mots peuvent construire, même contribuer à construire une colère des fois plus grande ou qui a plus de dimension que la simple émotion. Fait que je pense que c'est ça le petit côté poétique là-dedans. Puis aussi comment la poésie magnifie quelque chose qui pourrait avoir l'air à première vue banal.
Ouais. Alors Francis, toi tu incarnes Frankie?
J'incarne Frankie.
Ça a l'air qu'on vous voit grimper dans un arbre. Peut-être tout à coup, je viens de comprendre l'image qui est ici. Tout au long de la pièce, comment ça décrit l'état intérieur de cet homme, là, ce moment précis-là là, de la pièce?
Ben, c'est un homme fragilisé, mm-hmm. nécessairement. C'est pour rester dans l'analogie du pet shop, parce que c'est un personnage qui veut ouvrir un pet shop
ah oui.
avec son oiseau. pour l'avoir comme mascotte au pet shop. Et puis, si on reste dans l'analogie du pet shop, c'est un chat blessé. Frankie, c'est comme un chat blessé et qui a perdu son meilleur ami, son confident.
Mais c'est beau. Enfin, dans les gens qui ont des animaux domestiques, hein, c'est un membre de la famille.
Absolument.
On
Absolument.
Est avec un oiseau, mais bon, moi, je peux vous le dire, j'ai un chien, puis je lui parle. Alors...
Exact. Ils connaissent nos secrets.
La journée qu'il va me répondre, vous aviserez mon psychiatre. Le rapport entre Frankie et sa sœur Nono, qui est jouée par Noémie O'Farrell, c'est au cœur du récit. Alors, comment on travaille ça, cette relation avec, en même temps qu'il y a l'oiseau et la sœur? Comment ça fonctionne?
Comment ça les fonctionne? Deux, je peux-tu renvoyer la question à mon ami Alexandre qui, lui, l'a écrit?
Ben pour moi, il y a comme un triangle entre ces trois personnages-là. C'est-à-dire que Frankie, il mise beaucoup sur cet oiseau-là pour sortir de cette misère-là, mm-hmm. pour peut-être transcender cette genre de colère contre le monde qu'il porte. Alors que Nono, elle voit très bien que c'est un faux fuyant, que toute cette libération que Frankie cherche, elle est déjà à l'intérieur de lui, dans quelque chose qui est plus vulnérable, qui est plus doux, qui est plus aussi au diapason de ce qu'il a vécu, ce personnage-là. Parce que la colère, elle n'est pas de nulle part. Hein. Puis l'oiseau, ben, c'est un peu le miroir de ces deux personnages-là, parce que l'oiseau, il a 30 ans, il a grandi avec eux, il connaît tous leurs secrets. Fait qu'il sait quand il y a de la bullshit qui est racontée, il sait quand Nono, elle imagine par-dessus, par exemple, le passé que les deux ont eu, puis leur avenir incertain. Fait que c'est un peu un miroir de la relation de ce triangle-là.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Moi, je vous entends depuis tantôt, puis je vois un parallèle un peu à ce qu'on vit dans ce monde virtuel qui sont nos réseaux sociaux, l'Internet. Les mots qui s'échangent là-dessus, c'est épouvantable. Est-ce qu'on voit est-ce qu'il y a un parallèle avec la situation qui se passe avec l'oiseau, avec la famille?
Je ne sais pas si c'est drôle, parce que dans la pièce, il y a une zone qui est une zone, disons, hors du temps, hors de cette violence-là qui est dans la pièce, qui s'appelle le vortex.
Oui.
Puis nous, c'était ma façon de c'est un espace cybernétique,
oui.
Le vortex. Puis c'est un espace où Nono, elle est en paix, elle est libre de la violence du monde. Puis elle a sa communauté, elle a ses amis là-dessus qui la connaissent pour qui elle veut être. Pas sur ce qu'on raconte d'elle, de sa famille. Fait qu'en fait, c'est drôle que tu amènes ça parce que moi, le rapport à, disons, l'Internet, si, il est complètement à l'autre bout du spectre. C'est pas un espace qui est violent ou chargé. C'est un espace où le personnage de Nono peut s'exprimer pour qui elle est.
J'aimerais qu'on... Oui, vas-y.
Mais j'étais pour dire pour Frankie, lui, c'est tout le contraire. C'est quelque chose qu'il connaît pas.
Mm.
Puis c'est quelque chose qu'il trouve ridicule. C'est quelque chose qu'il trouve... Enfin, il trouve que Nono va se perdre dans ça. Fait que c'est quelque chose qui adhère pas du tout.
C'est un parallèle intéressant, en tout cas. J'ai hâte de voir ça. La mise en scène, c'est Sébastien David. Comment ça se passe?
Extraordinaire. Ouais. Bon, on a dit ça ce matin. Alexandre et moi, on est allés déjeuner avant de venir ici. Et puis, je disais à Alexandre que Sébastien est extraordinaire. Je pense absolument rien que j'ai voulu... changer ou négocier. Toutes ces idées sont fantastiques, inspirantes. Puis c'est un être hyper sensible. C'est quelqu'un qui respecte énormément le texte qu'Alexandre écrit, évidemment. C'est ce qu'on attend d'un metteur en scène, mais Sébastien a une sensibilité incroyable.
Il y a toujours le mot kitsch qui revenait quand je lisais sur cette pièce. C'est quoi l'élément kitsch là-dedans? C'est quoi l'importance du kitsch?
Ben, je pense...
Kitsch qui est une version quand même un peu meilleure que Kitten, puis je pense pas que c'est là qu'on va. Là.
Kitsch, c'est le cool du Kitten.
Ben, voilà, fait. Merci. Kitsch, c'était les trois cas, le cool du Kitten. Kitsch, cool du Kitten.
Mais je pense que c'est un mot auquel Sébastien il tient. Je pense que dans ses autres œuvres, Kitsch, ça dénote une esthétique aussi. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel Sébastien aime travailler. Moi, pour moi, comment ça résonne, c'est plus un peu ce côté-là populaire. C'est des personnages du quotidien. C'est ton voisin, c'est Michel Tremblay, c'est Régent Ducharme. C'est ce côté-là un peu genre monsieur, madame, tout le monde. T'sais. C'est peut-être là-dedans, moi, que je vois le mot kitsch s'illustrer.
Dans le communiqué, on voit qu'on se pose la question, est-ce que le public va se reconnaître dans la colère d'un homme qui a perdu son oiseau? Et la question qui m'est venue en tête, est-ce que la colère, finalement, c'est un sentiment dont on a honte, qu'on cache, qu'on a du mal à nommer?
Absolument. Honnêtement, franchement, c'est un sentiment qui est égal à n'importe quel autre sentiment, n'importe quelle autre émotion, la tristesse par exemple, mais souvent la colère vient avec cette charge répulsive, puis quand on est face à la colère, on n'a pas envie d'écouter, on n'a pas envie de demander d'où ça vient, on a plus envie de dire « Hey, va gérer ça dans ton coin, puis tu reviendras quand tu seras défâché. » Genre. Mais je pense que c'est une erreur. Puis la pièce, c'est ce qu'elle tente de faire, c'est on va forer là-dedans, on va forer dans cette émotion-là, puis on va essayer de comprendre d'où elle vient. La colère de Frankie, comment ce cycle-là s'est perpétué à travers le temps, menace même de se reproduire dans la salle au moment où la pièce est jouée.
Ah oui.
Puis comment on peut désamorcer ça? C'est une émotion qui est comme... C'est ingrat à être habité par la colère. Moi, c'est une émotion que je connais très bien. Puis c'est difficile parce que, d'une certaine façon, quand on est possédé par elle, on a l'impression d'avoir un certain pouvoir sur ce qui va nous arriver. Fait qu'on ride la colère.
Ouais.
Mais en même temps, ça repousse les gens qui pourraient nous aider à défaire ce nœud émotionnel-là, puis mettre d'autres émotions, tu sais, garnir cette émotion-là d'autres émotions pour avoir une image qui est plus détaillée, compréhensible, qu'on peut partager. T'sais.
La colère, Francis?
Bien, c'est des personnages de peu de mots, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que la colère vient très vite, le sentiment qui prend le dessus. Ouais, c'est spécial, puis en dessous de la colère, bien, il y a ce que je disais un petit peu tantôt au début, bien, cette blessure-là, cette faille très grande ouverte qui vibre, donc... Frankie n'est évidemment pas juste de la colère. S'il y a de la colère, c'est parce qu'il veut cacher quelque chose dans le peu d'outils qu'il a. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est en colère parce qu'il y a peu de mots, mais qui est complètement blessé.
Mais c'est fréquent chez les hommes, hein, de cette blessure-là, on la nomme pas, on la cache, et souvent c'est la colère qui vient remplacer, qui vient exprimer.
Totalement,
ouais.
Totalement.
Puis c'est drôle parce qu'on est, tu sais, on est au Canal M ici, puis vous avez un mandat qui est vraiment de très inclusif, tu sais. Oui. Puis moi, pour moi, avoir une émotion, t'sais, avoir quelques émotions pour vivre sa vie, pour dire tout ce qui nous traverse, c'est une situation d'handicap.
Oui.
T'sais. Puis moi, je connais plein de monde qui sont handicapés par ça. T'sais.
Ah, handicap émotionnel. Quoi.
Un handicap émotionnel,
totalement,
ouais.
Ouais.
Moi, je vais me permettre, moi, j'ai toujours vu la colère comme étant une façon de me motiver. Quand je suis en colère, c'est souvent parce que je suis indigné, puis je me dis, ben, je vais faire quelque chose. Et j'essaie de canaliser la colère. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans la pièce, ça?
Ben, je pense qu'on est... Pour le personnage de Frankie, on n'est pas là tout à fait parce qu'il faut comprendre ça. Ouais. Déjà, il faut avoir cette conscience-là. Mm-hmm. Quand on n'a même pas la conscience de prendre le pas de recul puis même voir qu'on est possédé par ça, c'est un travail encore plus primaire autour de l'émotion à faire. Mais évidemment qu'on peut... C'est ça la beauté de toutes ces émotions-là qui nous traversent, c'est qu'une émotion nous amène à une autre, nous amène à un autre état de conscience, nous amène à poser des actions. Mais là, on était avec un personnage qui est pris en otage par cette...
Je pense que c'est une des premières fois que j'ai une entrevue où on parle de cette émotion de la colère.
C'est fou, je te jure.
C'est fou. Il y a tellement de questions qui me viennent en tête. Puis je veux quand même qu'on parle aussi de cette pièce, parce que c'est pas juste une pièce de la colère. Là. Les gens vont rigoler aussi.
Ouais, ouais.
Vraiment, oui, oui. Pour rassurer un petit peu, oui, c'est ça. C'est pas juste one track, comme on peut dire en bon français. C'est-à-dire, c'est pas juste la colère du début à la fin.
Ouais.
On a besoin de... Puisqu'on est au théâtre aussi, on raconte une histoire, on a besoin de moments de soupape pour digérer un peu tout ça.
Puis c'est que la vie est comme ça. Hein? La vie, c'est... La colère, elle nous apparaît dans toute sa charge quand elle est juxtaposée à autre chose, tu sais. Fait que la colère pour... parce que tu t'es pété le pied sur le coin de ton lit, tu sais, c'est tellement... C'est là que tu la vois dans l'absurdité, tu sais.
Oui.
C'est là qu'elle saillit le plus, puis moi, ça m'intéresse, ces contrastes-là.
Ben moi, j'avoue qu'à chaque fois que les meubles changent de place chez moi pour me frapper les orteils, je pique une bonne colère. Ah, faut bien rigoler quand même. Oui. J'aimerais donc rappeler Kiki et la colère. C'est un texte d'Alexandre Dosti, mis en scène par Sébastien David. C'est présenté à la salle Jean-Claude Germain du Centre du théâtre d'aujourd'hui, du 27 janvier au 14 février 2025.
26, imagine.
Comment ça se fait que j'ai écrit 2025? Hein? Ça, c'est tu vois, je te dis, corrigez-moi si je dis une connerie. C'est fait. 2026.
Puis dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas beaucoup de billets. Fait que, ouais.
On va essayer d'aller voir ça. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été là.
Ouais, merci à toi.
Merci.